Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre et candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre, Amadou Gon Coulibaly, est mort à 61 ans ce mercredi à Abidjan des suites de problèmes cardiaques, un décès qui bouleverse le jeu politique. L'opposition, dont l'ex-président Henri Konan Bédié du PDCI et Pascal Afinguesson, chef d'une faction du FPI, a salué la mémoire de Gon Coulibaly. Nous reviendrons plus en détail sur la Côte d'Ivoire dans un instant. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a ouvert la voie hier soir à un réexamen d'une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur les résultats des législatives et considérée comme un déclencheur de la crise politique actuelle. Dans une allocution télévisée hier soir, M. Keïta a parlé d'un remembrement rapide de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la nomination de nouveaux juges. Il a laissé entendre que la Cour nouvellement formée pourrait réexaminer la décision prise par cet organe après les législatives de mars-avril et invalidant une trentaine de résultats initialement proclamés. Au Burkina Faso, le Parlement a recommandé hier le report d'un an des élections législatives, mais le maintien de la présidentielle au scrutin prévu le 22 novembre à raison des attaques djihadistes qui minent le pays. Burkina toujours, après un nouveau rapport accablant sur des exécutions extrajudiciaires massives attribuées aux forces de l'ordre burkinabé, Washington a tapé du poing sur la table hier, menaçant d'arrêter sa coopération sécuritaire avec le Burkina Faso. Des responsables américains, dont le secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, Tibor Nagy, ont exigé une action rapide des autorités burkinabées pour stopper les exactions commises par les forces de l'ordre contre des civils sous couvert de lutte antiterroriste. En République démocratique du Congo, une vingtaine de civils ont été tués ce mercredi en Ituri, dans le nord-est du pays, où des centaines de personnes ont été la cible de crimes contre l'humanité, pouvant relever de la Cour pénale internationale selon les instances internationales. La tuerie d'hier, dans le territoire de Djougou, a été attribuée à des milices de la CODECO. RDC toujours, le gouvernement a interdit hier toute manifestation alors que trois rassemblements ont été convoqués jusqu'au 19 juillet contre le choix du nouveau président à la tête de la commission électorale. La Mauritanie, 5087 cas de coronavirus, dont 139 morts, va lever à partir de vendredi le couvre-feu nocturne instauré depuis mars et rétablir la circulation entre les régions ainsi que les vols intérieurs. Et le Tchad, 873 cas, dont 74 décès et 788 guéris, a annoncé hier la réouverture de son espace aérien pour les vols internationaux à partir du 1er août, malgré la progression continue du nouveau coronavirus sur le continent africain. Les États-Unis ont franchi ce mercredi le seuil des 3 millions de cas de coronavirus au lendemain de l'amorce officielle de leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé, qui continue pourtant d'alerter sur l'accélération de la pandémie et la nécessité d'une action concertée. Pour sa part, l'administration Trump, qui annonce des signes encourageants dans quelques foyers de la pandémie, prône une réouverture totale des écoles à la rentrée. Par ailleurs, l'université Harvard et le Massachusetts Institute of Technology, MIT, ont demandé hier à un tribunal fédéral de bloquer la décision du président Donald Trump de révoquer les visas pour les étudiants étrangers dont les cours seront virtuels à la rentrée. Ces deux universités, parmi les plus célèbres des États-Unis, estiment que cette décision est arbitraire et capricieuse, une tentative de forcer les universités à reprendre l'enseignement présentiel au mépris des risques sanitaires. La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, décès donc hier à Abidjan du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, a lu le message du président Alassane Ouattara sur les antennes de la RTI, la télévision nationale.
Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés en ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie.
Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé des suites d'un malaise hier. Il prenait part à son tout premier et dernier conseil des ministres après 2 mois d'absence de la Côte d'Ivoire pour un séjour sanitaire en France. Qui était l'homme? Son portrait avec Aïcha Diarra, notre correspondante à Abidjan.
Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays. Ont été les propos d'Amadou Gon Coulibaly à son retour de la France après 2 mois de séjour médical. Candidat à la présidentielle d'octobre 2020, il devait conduire le RHDP au pouvoir à la présidentielle d'octobre prochain. Mais l'histoire a décidé autrement. Nommé premier ministre par le président Alassane Ouattara en janvier 2017, il restera fidèle parmi les fidèles. Ancien haut fonctionnaire et ancien ministre de la culture, il a été formé en France et maîtrisait les circuits financiers internationaux. Issu de la grande famille Gon Coulibaly à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dont il a été maire de 2001 à 2018. Il laisse derrière lui 5 enfants et un avenir incertain pour le parti au pouvoir. Aïcha Diarra, à Boaké, pour VOA Afrique.
Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain, était l'un des plus fidèles compagnons d'Alassane Ouattara. Le lion, comme on le surnommait, est rentré en Côte d'Ivoire il y a seulement une semaine après un séjour de 2 mois en France pour des raisons de santé. Sa disparition plonge la Côte d'Ivoire et le régime en place dans une position délicate à quelques mois de cette élection présidentielle. De Boaké, notre correspondant Siriki Baro.
Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. On te remercie de tout ce que tu as fait pour le RDP, pour la Côte d'Ivoire. Adieu, adieu. Monsieur le Président.
Ce sont les larmes d'une habitante de Boaké suite à la tragique nouvelle. Une nouvelle qui attriste les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance politique. Jules est originaire de l'ouest du pays. Il est sous le choc.
C'est mon allié, il est nouveau ici à Cuba. Et ça lui fait très mal. Voilà, ça lui fait très mal, c'est un être humain.
Parti en France en mai dernier, officiellement pour un contrôle sanitaire, ACG, comme l'appellent ses partisans, a dû y rester durant 2 mois. C'est donc au cours du premier conseil des ministres auquel il assistait depuis son retour le 2 juillet dernier que le futur candidat du RHDP a été pris d'un malaise. Transféré dans une clinique d'Abidjan, il y succombera quelques heures plus tard. Il était âgé de 61 ans. Un décès auquel certains ont du mal à croire, à l'image de ce commerçant.
Moi, je ne suis pas sûr, parce que j'ai une télévision nationale qui peut me donner l'information d'abord pour que je puisse sûr que bon est mort. Si je n'ai pas regardé la télévision journal, je ne peux rien dire d'abord. Si je dis ça, c'est comme j'ai en train de mentir. Donc il faut que j'entende dans la télévision nationale pour que je puisse prendre une décision.
La mort d'Amadou Gon Coulibaly, désigné en mars dernier comme candidat du parti au pouvoir pour les futures présidentielles, remet en cause tous les plans de son parti. Sur ce point, à Boaké, les militants du RHDP veulent rester positifs.
L'homme président, c'est un intellectuel. Il sait comment il peut choisir ses gens. Il a choisi Amadou Gon, on était satisfait. On va envoyer quelqu'un qui est mieux, plus qu'Amadou Gon aussi.
À 3 mois des prochaines élections présidentielles, la seule certitude à l'heure actuelle pour bon nombre d'Ivoiriens, c'est que le décès du dauphin d'Alassane Ouattara rebat toutes les cartes du jeu politique et encore plus au sein du RHDP. Siri Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Cameroun veut créer environ 100 000 emplois d'ici à 2025 grâce à la mise en œuvre des projets à haute intensité de main-d'œuvre ou IMO. L'approche IMO exige l'utilisation de la matière première locale et vise le développement des collectivités locales. Entre 2013 et 2020, le gouvernement camerounais avait déjà investi 9 milliards de francs CFA dans 38 communes en faveur de tels projets qui avaient abouti à la création de 6 200 emplois. En Afrique du Sud, le déficit public s'élèvera à 15% du PIB en 2020-2021, tandis que la dette grimpera à 82% du PIB, selon le ministre des Finances, Tito Mboweni. Les plans pour freiner les dépenses publiques seront difficiles à mettre en œuvre en raison de la faible croissance. Cependant, le Trésor a tenu sa promesse de réduire les dépenses à court terme d'environ 13,5 milliards de dollars, un objectif fixé en février avant la pandémie de COVID-19. Pour terminer, près de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des conséquences économiques du coronavirus, estime la Banque africaine de développement. L'Afrique pourrait connaître une importante récession économique avec une contraction du PIB de 1,7% à 3,4% et une perte d'environ 30 millions d'emplois cette année. Le FMI avait évoqué fin juin une récession de 3,2% pour l'Afrique subsaharienne et une baisse des revenus des habitants à leur niveau de 2010.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Des cas positifs de COVID-19 ont été décelés au sein de l'équipe nationale des moins de 20 ans de la Mauritanie. Cette formation reprend pourtant ses préparatifs pour la CAN de sa catégorie. 6 joueurs et 2 membres du staff ont été déclarés positifs au coronavirus. Tous ont été placés en quarantaine pour 2 semaines. C'est la Mauritanie qui abrite la prochaine édition de la CAN des moins de 20 ans. Malgré de nombreux reports de compétition le 30 juin dernier, la CAF a décidé de maintenir le tournoi. Le footballeur nigérien de Genk, Paul Onuachu, a été déclaré positif au coronavirus en pleine préparation en vue de la nouvelle saison avec son club belge. Il a été immédiatement placé en quarantaine. Ce résultat positif s'est avéré hier alors que tous les joueurs de l'équipe ont été testés mardi, mais pas Onuachu qui revenait du Nigeria. Le joueur nigérien de 26 ans était annoncé sur le départ après l'arrivée de son compatriote Cyril Dessers au club. La saison 2020-2021 sera lancée le 8 août prochain. En Algérie, Chérif Melal, président de la jeunesse sportive de Kabylie, a été condamné à 2 mois de prison pour des propos diffamatoires. Les faits remontent à l'an dernier lorsque la JS Kabylie recevait le CRB Louis Dade. Des supporters du club kabyle ont forcé les grillages du stade et envahi la pelouse avant que le match ne soit arrêté. La JSK perdait le match 3-0. Après la rencontre, Chérif Melal s'en est pris à Mohan Chérif Anachi, un ancien président du club qui l'a accusé d'être l'instigateur de l'envahissement du terrain par des supporters de la JSK. Ce dernier a alors porté plainte. Ici aux États-Unis, les joueurs de la NBA ont commencé à arriver à Orlando en Floride hier pour le début du camp d'entraînement en vue de la reprise du championnat le 30 juillet. Sur place, chaque joueur subit un test de dépistage à son arrivée dans la zone de quarantaine spécialement aménagée. Alors même que la Floride est devenue l'un des principaux foyers de coronavirus aux États-Unis, les équipes commenceront les entraînements une fois sorties de quarantaine. En attendant, les plateaux repas servis aux joueurs, du style de ceux servis dans les avions, ont déjà suscité quelques avis mitigés. 22 équipes se préparent à redémarrer une saison interrompue le 11 mars par la pandémie. Cette solution de reprise de championnat en zone protégée est toutefois loin de faire l'unanimité parmi les joueurs. Je n'aime pas l'idée, je n'ai toujours pas confiance à lâcher Joël Embiid, la star camerounaise des Sixers de Philadelphie.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seguya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va forcer le parti au pouvoir, le RHDP, à se choisir un nouveau candidat pour la présidentielle d'octobre, puisque c'est lui qui devait porter les couleurs de sa formation. Sur cette question et sur comment la nouvelle est accueillie à Abidjan, Abdourahmane Dia a joint Alexis Tano, directeur du journal Le Jour Plus.
Mais ça avait grande tristesse à Abidjan, étant donné qu'Amadou Gon était attendu depuis qu'il s'est rendu à Paris pour son contrôle médical le 2 mai 2020. Et il était très attendu, étant donné encore qu'Amadou Gon était le candidat du parti au pouvoir, le RADP, Rassemblement des Effectifs pour la démocratie et la paix. Donc, c'est avec grande tristesse, surtout, que l'on a reçu cette information, comme un coup de massue que nous avons reçu cet après-midi. Surtout qu'au matin, il était au Conseil des ministres, il a participé au Conseil des ministres, et c'est de là-bas qu'il a eu le malaise.
Et cela fait juste une semaine qu'il est rentré de Paris pour des soins également.
Tout à fait. Il était apparemment en forme, ce qui avait donné espoir aux nombreux partisans du parti au pouvoir, et qui a fait aussi démentir tous ceux qui pensaient qu'Amadou Gon allait y laisser la peau, notamment à Paris, où il s'était rendu pour le contrôle médical. Mais la vie, c'est ça, les surprises. Et tout le monde a appelé aujourd'hui qu'il est mort.
On le savait malade avant l'annonce de son départ pour Paris ou...
Non, surtout que le 1er mai dernier, Amadou Gon avait présidé la cérémonie de la fête du 1er mai, la fête du travail. Et c'est après cette cérémonie qu'il s'est rendu le lendemain à Paris pour son contrôle médical. Il faut dire que depuis 2012, où il a subi une opération au niveau du cœur, Amadou Gon se rend régulièrement à Paris pour voir son médecin traitant pour un suivi médical. Bon, on pensait que c'était un contrôle comme d'habitude, d'ordinaire, qu'il allait revenir. Et il est revenu en forme, en pleine forme, le jeudi, dès jeudi dernier.
D'accord.
Donc aujourd'hui, vraiment la nouvelle est terrible.
C'est une nouvelle terrible, comme vous le dites, qui peut aussi avoir des répercussions sur le plan politique, d'autant plus que Amadou Gon Coulibaly était le candidat du parti au pouvoir, le RHDP. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant sur le plan purement politique?
C'est difficile pour le parti au pouvoir, comme vous pouvez l'imaginer. Le président de la République faisait entièrement confiance au candidat du RHDP. Il a pesé de tout son poids pour qu'il soit retenu, et lui-même ne le cache pas. Amadou Gon est plus qu'un collaborateur, c'est un fils. Il a pris à ses côtés depuis une trentaine d'années. Donc Amadou Gon était parti pour être le candidat le plus sérieux, le candidat favori de ces élections qui arrivent. Mais aujourd'hui, l'équation qui se présente au RHDP, c'est de trouver un candidat du poids. D'aucuns avaient même annoncé que le président de la République pouvait revenir sur sa décision. Mais il n'en est rien encore, sa décision n'est pas se présenter à l'élection d'octobre 2020, mais nous attendons.
C'est une possibilité qu'Alassane décide de se présenter finalement?
C'est possible, mais il ne s'est pas encore prononcé là-dessus, nous attendons.
C'était le journaliste Alexis Tano, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Mali, la crispation est telle que des institutions de la République, telles que le gouvernement, seul le Premier ministre est en place, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale composée de députés du peuple et de députés mal élus, etc., tout tourne au ralenti. À la base, une crise politique entre le président Ibeka et le M5-RFP. Un mouvement qui demande la démission du président et de son régime. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Pour apaiser la crise actuelle, le président Ibeka a initié une série de rencontres. Parmi les regroupements réussis en audience figurent les M5-RFP. Choguel Kokala Maïga, membre du M5-RFP.
Le président a indiqué au M5-RFP qu'il a pris connaissance du mémorandum que le M5-RFP lui avait transmis au préalable à travers l'imam Mahmoud Diko, qui est l'autorité morale de notre mouvement. Le président, en retour, nous a dit qu'il souhaite que les M5-RFP discutent avec les partis qui soutiennent l'action gouvernementale, qu'on appelle généralement la majorité présidentielle. Deuxièmement, le président de la République a indiqué tous les efforts de tous les instants que l'État malien, qui lui-même font tous les jours afin d'obtenir la libération du président du FSD, Maïla Sissé.
Après cette audience, le M5 reste sur sa position et prépare un rassemblement le vendredi prochain, suivi d'une désobéissance civile. Abdoulaye Amadou Sy, de la majorité présidentielle.
Il peut avoir une désobéissance civile, mais uniquement quand l'État démocratique et républicain du Mali, les valeurs républicaines du Mali sont mises en cause. Mais si ces valeurs républicaines ne sont pas mises en cause, toute autre manifestation de désobéissance qu'on fait, en fait, n'est pas une désobéissance civile, car elle est pratiquement hors la loi.
Certaines organisations de la société civile ne sont pas d'accord avec les rapports de force actuels dans les rues de Bamako. Boubacar Boukoum, du cadre de concertation des organisations de la société civile.
Vous allez comprendre que c'est vrai, le président de la République, il a la légitimité et la légalité qui fait de lui le président de la République, mais ce n'est pas l'ensemble du peuple malien qui a voté pour lui. Encore Mouamadou Diko qui sort, même s'il est sorti avec plus d'un million de personnes, ce n'est pas un million le Mali. Et si effectivement la majorité présidentielle marchait aujourd'hui, ce n'est pas aussi l'ensemble du Mali qui va sortir du côté de cette majorité présidentielle. Donc il faut qu'on arrête les mouvements de rue, qu'on arrête cette démonstration de force et qu'on parle vrai. Parler vrai, ça veut dire aujourd'hui quoi? Qu'on rentre dans le cadre du dialogue.
La coordination des mouvements de l'Azawad souhaite un dialogue afin que le Mali puisse sortir de cette crise politique. Moussa Ag Atayer, membre de la CMA.
On reprenne vraiment le dialogue, qu'on revienne à une situation de stabilité qui puisse permettre à l'État de fonctionner correctement. 80% du pays aujourd'hui n'est pas sous le contrôle de l'État. Nous sommes en train de travailler à travers l'accord au retour progressif des services de l'État, des services sociaux, au retour progressif des forces armées de sécurité reconstituées. Mais tout cela est porté par qui? Par le président de la République d'abord et son gouvernement ensuite et après par les autres institutions.
Avec cette crise politique, il y a une stagnation de l'économie sur fond de propagation de la pandémie de la COVID-19 et son corollaire de désarroi. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Human Rights Watch dénonce les exécutions extrajudiciaires de 180 personnes enterrées dans des fosses communes ces derniers mois dans le nord du Burkina Faso. L'ONG affirme que sur la base des preuves disponibles, on soupçonne l'implication des forces de sécurité. Yacouba Ouédraogo a joint à Washington Corinne Doufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
Pendant notre recherche, je parlais avec 23 habitants de la ville de Djibo en personne, la dernière mission à Ouaga et aussi par téléphone. Que nous avons dit qu'ils ont commencé de voir le cœur découvert le matin le long des routes principaux, c'est-à-dire sur la route Djibo-Ouagadougou et sur la route Djibo-Adjori, sur le pont aussi dans le champ et dans le terrain vague. Et le corps était retrouvé dans un rayon des 5 km du centre de Djibo. Beaucoup étaient attachés aux mains et les yeux et avaient été abattus. Les habitants ont décrit des enterrements de masse qu'on avait lu en mars et avril. Par exemple, en début mars, ils ont enterré 114 corps dans 14 fosses communes.
Est-ce que vous avez pu avoir l'identité des personnes tuées?
Une dizaine de personnes avaient identifié leurs proches parmi les gens qui avaient été retrouvés morts. Mais la plupart des gens n'étaient pas identifiés. Ils ont dit aussi que la plupart étaient le Peul et le Rimaibi.
Vous dites avoir recueilli des témoignages. Et qui sont les auteurs présumés de cette tuerie?
Selon les habitants, le témoignage, la grande majorité des morts avaient été tués par la force de sécurité. Et ils ont dit que c'était le suspect arrêté lors des opérations militaires. Ils ont dit cela pour plusieurs raisons. D'abord, une dizaine de témoins avaient vu des victimes, dont des membres de leur propre famille, arrêtés au cours des jours des semaines précédentes par la force de sécurité, c'est-à-dire le dernier dernière fois qu'ils ont vu leur proche était dans le garde-vous de la FDS, la Force de l'Ordre. Aussi, toutes les personnes étaient retrouvées mortes avec de nombreuses autres victimes. Aussi, ils ont signalé que Djibo, c'est une ville avec une forte présence des militaires et que c'est effectivement sous contrôle de l'armée. Il y a aussi un couvre-feu, c'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était pas possible pour eux de quitter pendant la nuit dans une ville qui s'est contrôlée pour l'armée, dans laquelle il y a un coup de feu, que les autres groupes armés, qui ne sont pas l'armée, pourra circuler et tuer les gens.
Est-ce que vous avez approché le gouvernement burkinabé pour comprendre? Et si oui, quelle réponse avez-vous reçue?
Oui, bien sûr. Le ministre de la Défense a répondu au nom du gouvernement. Il a engagé d'enquêter sur les allégations et a garanti le respect des droits humains dans les opérations de sécurité. Et il a suggéré que les groupes islamistes en utilisaient des uniformes et les moyens logistiques de l'armée volés. Il a noté que parfois c'est difficile pour la population de faire la différence entre les groupes armés terroristes, il a dit, et les forces de l'ordre. Et le ministre a également confirmé l'accord des gouvernements de créer un bureau à Ouagadougou du Haut Commissariat des Nations Unies des droits humains.
Corinne Doufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Dans le cadre du programme américain Visa pour la diversité, des dizaines de milliers d'immigrants potentiels comptent sur la chance du tirage pour pouvoir vivre aux États-Unis. La loterie de la carte verte a été temporairement interrompue par l'administration Trump en raison de la pandémie de COVID-19. Pour ceux et celles qui ont déjà obtenu un visa l'année dernière, réaliser le rêve américain est toutefois encore très lointain. Vina Mouptaldi de la VOA a rencontré des gagnants de cette loterie. Son reportage est repris ici par Lionel Gahima.
Après avoir gagné à la loterie de la carte verte et obtenu son visa, Eric Alamja est arrivé aux États-Unis en provenance de l'Indonésie à la fin de 2019 avec sa femme, Sari et ses deux enfants. Il avait travaillé dans le secteur informatique pendant 8 ans à Jakarta, la capitale indonésienne. Malgré cette vaste expérience, il n'a toujours pas été à mesure de trouver un emploi à temps plein. Eric Alamja, récipiendaire du visa pour la diversité.
De toutes les candidatures que j'ai envoyées, qu'il s'agisse de commerce de détail ou d'autres emplois dans le domaine informatique, je ne reçois de retour d'appel que pour du travail dans les pharmacies, épiceries et magasins de rénovation. Peut-être que je devrais suspendre ma recherche et trouver un autre travail dans l'informatique.
En attendant, Alamja travaille comme caissier à Home Depot, un grand magasin de quincaillerie dans l'état du Maryland. Originaire, elle aussi, d'Indonésie, Vinya Agnesia est arrivée aux États-Unis munie de sa carte verte. Elle a abandonné sa dernière année d'études en chirurgie dentaire à Pandang, sur l'île de Sumatra, pour déménager à New York fin 2019. Sans diplôme universitaire ni expérience professionnelle, Agnesia a eu du mal à trouver un emploi à temps plein. Elle a été serveuse à temps partiel dans un restaurant japonais pendant quelques mois jusqu'à la fermeture de ce restaurant. À la suite du confinement, elle s'est retrouvée au chômage à New York, épicentre de la pandémie de COVID-19 et l'une des villes les plus chères du monde.
Mes parents s'inquiètent non seulement à cause du coronavirus, mais aussi financièrement. Comme je suis au chômage, ils se demandent comment je m'en sors et je leur réponds, ne vous inquiétez pas, je suis légale ici, donc éligible pour obtenir l'aide du gouvernement.
Cette aide, c'est un chèque de 1 200 $ ainsi que l'assistance chômage qui permet à Agnesia de percevoir environ 600 $ par semaine qu'elle utilise pour payer le loyer, les services publics, la nourriture et les transports, tout en continuant à chercher du travail. Sari Alamja, elle, reste optimiste au sujet de la nouvelle vie américaine, malgré toutes les incertitudes.
Nous sommes venus ici pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants. Nous avons déjà pris notre décision, nous devons passer par là, peu importe. J'espère juste que les choses iront mieux.
Les familles Alamja et Agnesia font partie de quelques 55 000 personnes qui viennent chaque année aux États-Unis par le biais de la loterie de la carte verte qui, rappelons-le, donne le droit légal de travailler, mais ne garantit pas un emploi.
Voilà c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.